Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Ravelli Lemel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Rav Lemel, on avance dans l'étude de notre paracha et on arrive à celle qui se nomme Tzav. Et c'est une paracha qui est très largement consacrée au sacrifice, à tout le travail autour du Mishkan et du Mizbéar. Et on apprend que le feu doit toujours être allumé, doit toujours être là, sur le Mizbéar. Et bien sûr qu'il y a un enseignement énorme. Il faut qu'il y ait toujours cette flamme qui brûle. Qu'est-ce que ça signifie ?
Exact. Alors le verset dit en effet « Esh tamid atukad ala Mizbéar lotirbe » La traduction de ce verset, c'est « Esh tamid » un feu tamid, constant, perpétuel, on aurait dit. « Tukad ala Mizbéar » doit flamber sur le Mizbéar, il doit brûler sur le Mizbéar, sur l'autel « lotirbe » tu ne peux l'éteindre. Donc on a cette idée-là de ce qu'on appelle un esh tamid, un feu constant qui doit être là. Alors évidemment, est-ce que c'est juste pour nous apprendre ce qui devait se passer techniquement à l'intérieur du Beth Amikdash, du Temple à Jérusalem ? On a ici quand même d'autres lectures que l'on va faire de ce que représente ce feu qui doit être présent de manière constante. Alors tout d'abord, il y a un enseignement d'un maître qui s'appelle Shla Kadosh, qui dit au nom de Rabbi Moshe Cordovero, qui est un des plus grands maîtres de la Kabbale qui a vécu à Safed, il dit que lorsque quelqu'un se trouve confronté à des désirs de transgression, eh bien, qu'il dise ce verset-là, « Esh tamid tukad ala Mizbéar lotirbe ». Alors, évidemment, on n'est pas ici dans une phrase magique. Ce serait bien si on avait comme ça des phrases magiques, hein. Ce serait pas mal, on dit la phrase et puis ça y est, brusquement il y a une transformation de l'intérieur. Au fond, et c'est ce qui est clair, hein, au passage le Ktav Sofer sur ce verset, c'est le message « Esh tamid tukad ala Mizbéar lotirbe ». Lorsqu'on parle de ce feu, on parle évidemment de cette flamme intérieure qui doit être là de manière permanente, qu'on ne doit pas éteindre, c'est-à-dire ce qui permet à quelqu'un d'être dans une dynamique de progression dans sa spiritualité, c'est en effet qu'il y ait cette dimension de hesh, cette dimension de feu, c'est-à-dire quelque chose que l'on fait avec enthousiasme, avec désir, avec force, à l'image de cette flamme qui s'élève en permanence et qui donc nous indique un petit peu cette marche à suivre. C'est vrai que l'élément essentiel qui permet, au fond, au judaïsme de se perpétuer, c'est avant tout ce qu'on appelle la chamimut, c'est-à-dire la chaleur avec laquelle on fait les choses. Vous savez que lorsqu'il y a parfois, en effet, un acte ou d'autres choses qui sont faites là, mais de manière très froide, on fait les choses, eh bien, au fond, ce n'est pas quelque chose qui peut se transmettre. Ce que l'on peut transmettre, c'est justement, j'ai envie de dire, cet enthousiasme avec lequel on va faire la mitzvah. Alors pourquoi ce Hesh Tamid à la Mizbéar Lotirbe? Il y a une seconde lecture que va donner le Maguid de Meseritz, je crois, c'est que tout simplement, il met une virgule. Il dit Hesh Tamid Tukad à la Mizbéar, ce feu permanent doit brûler sur le Mizbéar, sur l'autel, et l'eau, virgule Tirbe. Alors l'eau, traduction, non, virgule, tirbe, ça tu dois l'éteindre. Parce que le mot tirbe veut dire éteindre. Alors la première lecture c'est tu n'éteindras pas le feu. Mais là il lui dit, le Maguid Meseritz, pardonnez-moi, nous dit l'eau, la notion du non, tirbe, ça tu dois être capable d'éteindre. Alors de quoi il parle? Bien, il dit la chose suivante. Lorsque l'individu parfois dans la vie se retrouve face à toutes sortes de désirs qui ne sont pas positifs pour lui, et plus que cela, lorsqu'il dit l'eau, je ne veux pas faire, il n'a pas envie de faire les choses, ou alors il s'interdit de les faire, ou alors il trouve des prétextes pour ne pas agir, pour ne pas être dans le mouvement. Alors ça, en effet, le texte nous dit tirbe, ça, on doit être capable d'éteindre, on doit être capable, en effet, de lutter contre cette dimension du lot, cette dimension du non, qui, au fond, est souvent un prétexte. Parce que si on réfléchit bien, si on a besoin de dire non à une chose, c'est que cette chose, on a conscience qu'elle va nous amener quelque part. Il faut être capable donc d'être mechabé, de savoir l'éteindre. Et pour cela, eh bien, il y a en effet une idée qui est fondamentale dans les livres de Moussard et qui nous dit la chose suivante. S'habituer justement à faire tous les jours une chose qui est contre notre volonté. C'est-à-dire qu'on a tous les jours envie de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas nécessairement toxiques, qui ne sont pas nécessairement négatives. Mais savoir à un moment s'imposer quelque chose, savoir s'obliger à faire quelque chose. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous faire sourire. J'ai envie de manger un morceau de chocolat. Le chocolat est super cachère, il est super bon. Le médecin ne m'a pas interdit d'en manger, donc a priori, il n'y a pas de raison de dire non. Et pourtant, on va faire cette chose-là. On va à ce moment-là se dire, eh bien, je vais voir si je suis capable d'être dans la maîtrise, si je suis capable à un moment de me dire non à moi-même. C'est le même principe. Le non, tire-bé. Alors, il faut être capable de savoir éteindre quelque chose, savoir se dire non à quelque chose ou alors savoir se dire oui à quelque chose. Vous allez dire, c'est curieux parce que, au fond, on attendrait de l'individu qu'il ait une forme de conviction très élevée, très spirituelle, très intellectuelle, et pas être dans cette forme d'opposition par rapport à lui-même. Eh bien, nos maîtres n'ont pas exactement cette vision. Ils nous disent « Acharei apeulot nimshachim al vavot » qu'au fond, notre cœur, eh bien, va bouger suivant les actions. C'est-à-dire que lorsque l'on fait cet acte-là, parce qu'on nous a dit que c'était bien de le faire, même si nous n'en avons pas, pardonnez-moi, une forme de conviction profonde qui nous habite, parce que personne ne va dire oui, mais je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, parce qu'on m'a dit que c'est bien, parce que la Torah me dit lo, virgule, tirbe. Il faut être capable de se dire non à soi-même ou de s'obliger à dire oui à soi-même, mais au fond, c'est pas moi, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est la répétition de l'acte, le fait de l'installer, qui va en effet, au bout d'un moment, opérer une transformation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voit que dans le domaine de l'éducation, eh bien, il y a d'abord ce qu'on appelle justement cette dynamique du naasé venishma, de nous allons faire et après nous allons chercher à comprendre. C'est-à-dire qu'on va d'abord, en effet, être dans une action. On va faire la chose. Clairement, c'est sûr et certain qu'on a l'obligation de la comprendre. On doit, en effet, par la suite, comprendre le sens de ce que l'on fait, parce qu'au passage, quand vous comprenez le sens de ce que vous faites, vous le vivez avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de beauté. Mais en point de départ, eh bien, c'est cette action. Et c'est d'ailleurs la base même, comme je viens de le dire, de l'éducation des enfants. Être capable d'inscrire chez eux cette notion en soi de savoir être mechabé, c'est-à-dire d'éteindre cet élément qui me dit non, d'accord ? Il me dit non, je ne veux pas le faire, ben si, je vais le faire. Ou alors faire exactement, mettre en place le même principe dans l'autre sens et se dire non à soi-même et éteindre ce fameux oui qui pourrait nous amener vers un certain nombre de choses. Voilà une démarche. Mais je reviens quand même sur la première lecture qui était cette notion de « Esh tamid tukad al hamizbeach loterbeh » faire les choses avec Chamimout, avec chaleur, avec enthousiasme. Et ça, en effet, c'est, au fond, être capable de se réinventer tous les jours. Vous savez que, sans doute, l'élément le plus difficile pour l'individu, c'est Hergel, c'est l'habitude. Il y a d'ailleurs une chanson, n'est-ce pas bien connue, le fameux « comme d'habitude ». Et au fond, le Hergel, l'habitude, fait qu'au bout d'un moment, l'acte va être là. Mais l'élément essentiel qui fait que les choses s'élèvent à l'image du feu, eh bien, disparaissent. Et à nous de savoir tous les jours comment faire pour le réinstaller. Et pour cela, évidemment, il y a aussi peut-être une petite idée, c'est laquelle c'est désirer, développer et découvrir quelque chose de nouveau à travers ce que l'on fait et dont on a l'habitude. Alors après, Mishmolevitz, qui était un des très très grands maîtres de la génération, qui était le directeur spirituel de la Yeshiva de Mir, qui écrit, enfin, dont on a écrit sur la base de ses enseignements un livre qui s'appelle Sichot Moussar. C'est un homme qui avait un amour profond pour tout le peuple juif. Il disait, il y en a avec lequel j'ai peut-être un tout petit peu de problème, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et on lui disait, c'est lequel? Il disait, Michéou savait à Borouchim, quelqu'un qui est rassasié de spiritualité, quelqu'un qui, au fond, va peut-être continuer à faire les choses, mais n'a plus cette aspiration à grandir, à s'élever. Et c'est un petit peu le sens et la symbolique de ce Eshtamid, de ce feu constant qu'on doit chacune et chacun d'entre nous, essayer non seulement de faire brûler, d'entretenir et surtout de fermenter.
Magnifique, vraiment magnifique, extraordinaire. Déjà avoir réussi à nous dire l'eau tirbée après, et après nous dire non, mais tu peux même en plus le faire dans le sens, vraiment extraordinaire, extraordinaire. Vous savez, d'ailleurs, vous nous aviez aussi un petit peu enseigné ça avec le Mahasita Shekel. Et je crois que déjà vous aviez dit que c'était les Hasidim qui avaient dit la deuxième moitié, c'est pas l'autre. Alors, parce que c'est, tout le monde pense qu'il faut deux personnes pour faire un Shekel. Il a dit non, la deuxième partie, c'est le feu, de ce que je me souviens. Et en vous écoutant, je me disais aussi, mais le français a gardé cette idée, parce que on dit de quelqu'un qu'il a le feu sacré. Ça veut dire le feu sacré, c'est-à-dire qu'il est habité. Il a le. Donc voilà, vraiment très 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 beau moment en fait avec vous, Ravelli Lemel.
Très beau moment avec nos textes, avec l'enseignement de nos maîtres.
Avec nos maîtres. Ravelli Lemel, bah oui, avec tous nos maîtres. Ravelli Lemel, je vous remercie. Ces belles paroles et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Rav Mordechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vous voulez intervenir sur notre paracha à propos d'un sacrifice, évidemment, c'est l'une des parachutes les plus importantes au niveau des offrandes, des corbanotes. Mais vous voulez intervenir sur un corban, donc on appelle ça sacrifice en français, c'est pas toujours très heureux. Vous voulez intervenir sur l'un d'entre eux qui est particulier parce que tout doit disparaître, on ne garde rien. Le Cohen ne garde rien, tout doit disparaître. Et donc forcément, il y a une raison. Donc voilà, c'est sur ce point que vous voulez intervenir, Rav Mordechai Bitton.
Absolument. Alors, comme vous l'avez bien dit, c'est effectivement, la traduction sacrifice en français est littéralement désastreuse. Hein. C'est vraiment traduction, c'est même pas trahison, c'est traduction désertion. Parce que parler des corbanotes en disant que c'est des sacrifices, c'est suggérer cette idée qu'on perd quelque chose dans les sacrifices, alors que c'est totalement faux. L'idée des corbanotes, c'est d'exprimer au Beth Amikdash, au Temple, une proximité avec Hachem, et surtout de révéler à quel point Hachem est proche de nous, en ceci qu'il gouverne la Bria, sa création, dans chacune de ses particules. C'est un peu l'idée des sacrifices. Mais comme vous l'avez dit, dans Parashat Tsav, dans cette Parashat-là, on évoque un sacrifice très particulier, qui est le Korban Ola, qui est un sacrifice qui était entièrement brûlé sur l'autel des sacrifices. En général, les sacrifices étaient répartis et les Kohanim recevaient une partie des sacrifices et ils les mangeaient dans un état de sainteté particulière, avec des intentions particulières, qui permettaient d'obtenir donc la kapara, l'expiation, pour la personne qui apportait le sacrifice. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc les Kohanim ne vont absolument pas bénéficier de ce korban, et ce korban, il doit disparaître. Alors pourquoi ? Parce que ce korban Ola, il vient principalement expier les pensées délétères, les pensées fautives, les irouré avera, ce qu'on appelle les pensées, les cogitations conscientes de avera, de transgression. Et là, il y a un fait qui est très intéressant, qui est relié à ce sacrifice, c'est qu'en fait, la pensée, ce que nous pensons, ce que l'homme pense, c'est là qu'il se trouve. En fait, ce qui définit un homme plus que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, ce qu'il cogite, ce à quoi il est en permanence occupé dans ses pensées du matin au soir. Et d'une certaine manière, une pensée à la fois exprime un individu, résume un individu, mais aussi beaucoup plus que ça. La Torah réprime des gens qui agissent de manière fautive. Quelqu'un qui va voler, quelqu'un qui va tuer, quelqu'un qui va frapper quelqu'un d'autre. La Torah réprime son acte. Mais la Torah ne réprime pas les pensées. Plus, en quelque sorte, la transgression est fine, elle est spirituelle, elle est intellectuelle, moins elle est en quelque sorte de ce monde. Et finalement, c'est ce que vient exprimer ce sacrifice. Étant donné que la pensée fautive ici, elle nécessite une expiation, le sacrifice ne pourra pas être suivi d'un acte qui est un acte d'être mangé par des Kohanim. Il faut qu'il soit entièrement brûlé, parce que ce que la pensée fautive exprime, c'est que finalement l'individu se brûle complètement. Comme si quelqu'un, en quelque sorte, à un moment donné, consacrait son énergie, sa pensée à cogiter un vol ou un meurtre, l'Oalénou, eh bien, en quelque sorte, il est entièrement absorbé par ça. Il devient à ce moment-là, en quelque sorte, l'expression d'une volonté meurtrière, et donc il est entièrement dévoué à sa transgression. Et donc, pour son expiation, il lui faudra un sacrifice qui soit entièrement brûlé sur l'autel des sacrifices, c'est-à-dire quelque chose qui exprime que, en pensant à mal, il s'est complètement détruit. La marshava, la pensée, son siège se trouve dans le cerveau, et dans le cerveau se trouve le siège de la neshama, de l'âme divine, de la partie divine. Et donc, d'une certaine manière, en occupant ce siège de la partie divine, la Kabbalah, il faut le savoir, compare le cerveau au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints. C'est donc l'endroit dans lequel se rencontre en quelque sorte le spirituel, la pensée, l'intellect, le spirituel, la neshama, l'âme, et en même temps le corps. Et donc, dans ce lieu de rencontre-là, il faut que l'énergie de l'homme soit consacrée à quelque chose d'utile, ou à quelque chose de spirituel, ou à quelque chose qui l'élève. Mais si c'est consacré à quelque chose qui le détruit, donc cette rencontre n'a pas lieu, et donc l'individu se détruit. Il détruit sa relation spirituelle. Et donc c'est entièrement brûlé sur l'autel des sacrifices. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Deuxième chose également qu'on peut rappeler, c'est que chaque membre du corps a en quelque sorte une poche, comme la bouche, par exemple. La bouche a une poche, d'accord? Mais la pensée, elle n'a pas de poche. D'accord? Elle s'exprime au travers des processus chimiques, électriques, des neurones et des neurotransmetteurs, mais elle n'a pas de poche. La pensée, elle vole en quelque sorte, comme quelqu'un qui est perdu dans ses pensées. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut ici se référer à ce que dit Rashi. Rashi dit qu'il faut faire extrêmement... Ici, la Torah est obligée de nous mettre en garde de manière très particulière, parce qu'elle nous dit ici, il y a un chisaron kis. Ici, quand il s'agit de la pensée, il n'y a rien qui peut retenir la pensée. Rav Israël Salanter disait « Adam chofshi bedimyono ». L'homme, il est libre dans ses dimyonot, dans son imaginaire. Il est assis sur son canapé, et il peut voguer dans le monde entier et s'imaginer toutes sortes de choses. Au fond, il n'y a rien qui retient la pensée. Et c'est précisément ce qui exprime son essence. C'est qu'elle est son essence est d'être une essence divine. Il y a même plus que ça. Certains textes de la Chassidoute nous enseignent qu'en réalité, les pensées qui viennent à nous sont des pensées que le ciel nous envoie. Alors parfois, ce sont des mauvaises pensées, et ce sont des mauvaises pensées qui nous sont envoyées pour qu'on puisse les repousser et ainsi obtenir la capara et l'expiation par le fait même de les repousser. Et évidemment, la plupart du temps, ça peut être des très bonnes pensées, et ce sont des pensées qui nous aident à structurer notre être vers des énergies positives. Donc vous voyez, au travers de ce sacrifice-là, ce qui nous est proposé, c'est une réflexion sur la pensée. Je pense que c'est une bonne introduction à Pessah, où à Pessah, on va nous demander de parler, mais on va nous demander de parler de manière très réfléchie. On va devoir beaucoup, beaucoup réfléchir et penser au sens de cette fête et à la liberté qui nous est offerte, et en même temps l'exprimer donc par des commentaires. Donc cette paracha de Tzav, elle vient magnifiquement introduire la semaine dans laquelle on va rentrer, où on va d'abord commencer à mettre la maison à l'envers, on va terminer de mettre la maison à l'envers pour tout nettoyer, et là on va tout remettre en ordre, et on va se retrouver à la salle le soir du Seder, avec cette fois-ci en ayant réfléchi sur ce Hametz qu'on doit enlever, et en même temps étant prêt à en parler. Voilà, je crois que c'est cette introduction, et c'est ce que nous enseigne donc ce sacrifice-là, et ce passage, cette paracha de Tzav. Donc voilà, à toutes et à tous, Shabbat Shalom.
Ramon Dechabiton, en vous écoutant, je me disais que j'avais entendu une fois, vous allez me dire si j'ai bien compris, que le sens, parmi les cinq sens, qui correspond le plus à Hachem, à Dieu, c'est l'odorat. On peut voir, on peut sentir, on peut toucher, on peut entendre, mais l'odorat, parce que c'est le plus divin, le plus impalpable. Et en vous écoutant sur la pensée, je me disais, tiens, c'est marrant, ça, c'est un peu la même idée. C'est le plus impalpable, le plus... Et donc, forcément, celui qui nous dépasse le plus.
Absolument, c'est celui qui nous dépasse le plus, et c'est celui qui obéit à des règles qui nous dépassent. Les règles qui régissent les actes, elles sont très claires et très logiques, finalement. Mais ce qui touche à la pensée, et effectivement, c'est quelque chose qui effectivement nous dépasse complètement. On a beaucoup de mal tous à comprendre que quand on pense, on peut détruire. Vous savez que Rabbi Chaim de Volozhin, l'élève du Gaon de Vilna, écrit dans le Nefesh HaChaim qu'un juif avec une mauvaise pensée, du fait qu'il est relié au monde supérieur, peut faire beaucoup plus que Titus lorsqu'il a violé une prostituée dans le Beth Amikdash au moment où il a détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la Neshama, la partie divine que nous avons en nous, nous relie à la capacité par la pensée d'activer des processus qui nous dépassent complètement. Et ça, il faut le savoir. Rabbi Chaim de Volozhin l'écrit de manière très rationnelle, si je puis dire, entre guillemets, c'est l'élève du Gaon de Vilna, dans le Nefesh HaChaim. La pensée agit sur les mondes supérieurs. Et ça, on a du mal, nous, à le comprendre, mais il faut l'intégrer. C'est un problème tout à fait, c'est un enjeu, c'est un défi tout à fait fondamental d'apprendre à travailler ses pensées.
Rav Mordechai Biton, merci. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Guay. Bonsoir Rav Guay. Shabbat shalom.
Bonsoir. Et Shabbat shalom.
Et Shabbat shalom. Moi j'adore les émissions quand c'est le vendredi après-midi. Alors il y a deux écoles, moi j'adore le vendredi. Parce que sinon c'est samedi, soir évidemment. Rav Guay, vous voulez commencer à nous parler du ménage de Pessah? Bon, il y a des gens qui trouvent qu'il y en a beaucoup, mais c'est comme ça, le ménage commence. Et d'ailleurs, vous voulez revenir sur une mida, sur une notion de la Torah qui s'appelle la zrizout. C'est-à-dire qu'il faut être empressé à faire les choses. Et c'est très important. Donc dites-nous pourquoi c'est très important.
Alors effectivement, je voulais en parler parce que effectivement les dimanches sont souvent consacrés dans beaucoup de familles au nettoyage en vue de l'arrivée prochaine de Pessah. Les matzot également nécessitent beaucoup de drizout de zèle puisqu'il ne faut pas dépasser les 18 minutes, il faut s'occuper d'une pâte et faire en sorte qu'elle ne monte pas, qu'elle ne gonfle pas, qu'elle ne devienne pas du chametz. Et donc on parle de la notion de drizout, c'est-à-dire du zèle, voire même de l'empressement, on parle même de chipazon. Lorsqu'il s'agit de la sortie d'Égypte, chipazon, ça veut dire la précipitation. Et effectivement, on peut s'interroger sur l'intérêt, l'importance de cet trait de caractère qui est absolument nécessaire pour relever tous les défis que représente la préparation à la fête de Pessah. Alors effectivement, la notion de Zrizout, le Messilat Yesharim, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il donne une remarque qui est particulièrement, on va dire, qui est exceptionnelle à propos de cette médaille. Il dit que c'est un trait de caractère particulièrement difficile parce que nous avons dans notre nature beaucoup de paresse, on est paresseux de nature, et que pour y accéder vraiment à la zrizou totale, au zèle parfait, on n'y accède vraiment qu'après 120 ans, c'est-à-dire après notre mort. Parce que de notre vivant, on n'est jamais vraiment totalement dans le zèle, on est toujours un petit peu touché par la paresse. N'empêche que toute personne qui essaiera sur cette terre d'arriver à ce niveau de zrizout y accédera parce que Hachem récompense tous les efforts qui sont faits, sachant qu'effectivement on ne peut pas y être totalement, ni accéder totalement dans ce monde. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que la Torah veut absolument nous éduquer au moment de la naissance du peuple juif à avoir ce type de caractère être zélé. Alors, c'est logique, on va dire que la paresse est la mère de tous les vies, mais on peut aussi comprendre autre chose, c'est que nos chachamim nous disent qu'il faut quelque part aller au-dessus du temps. Le temps, c'est quelque chose qui est lié à ce monde. Le monde, c'est quoi? La création de ce monde, c'est la création de l'espace, la création de l'espace-temps. Et Bereshit, c'est le commencement, c'est-à-dire la création du temps. Et le temps, en fait, c'est une seconde. Qu'est-ce qui est plus profane, qui ressemble plus à une seconde qu'une autre seconde? La capacité de dépasser le temps, c'est-à-dire d'aller, de vouloir faire vite, vite et bien évidemment, vite, c'est une volonté comme ça de dépasser, de s'élever au-dessus des contingences de ce monde. Et de rappeler une chose très simple, c'est que de la même façon que lorsque une matza, on traîne et qu'on dépasse les 18 minutes, ça devient du chametz, donc c'est plus du tout une matza, c'est le contraire, c'est du chametz. Est strictement interdit à la consommation, alors que si c'est une matza, c'est une mitzvah à consommer. Donc on passe vraiment de quelque chose qui est non seulement cachère, mais recommandé, même une mitzvah, à quelque chose qui est taref, quelque chose qui n'est pas du tout cachère, qu'il faut écarter pendant Pessah. Eh bien, si une mitzvah qui est faite avec nonchalance, indolence, lorsqu'on somnole à peu près, lorsqu'on fait nos prières ou lorsqu'on fait une mitzvah quelconque, eh bien, on faut savoir que ça n'a absolument pas le même niveau, la même dimension qu'une mitzvah faite avec drizout, avec zèle. Alors, il y a toujours une récompense pour chaque mitzvah, mais vraiment, la mitzvah, c'est la volonté pour Hachem de s'inscrire, de pénétrer dans ce monde, et il nous demande à nous de nous élever, de nous transcender, d'essayer de monter de niveau, et en faisant les choses avec zèle, on monte d'abord notre amour, notre attachement à la mitzvah, mais aussi on transforme la mitzvah elle-même. La mitzvah elle-même n'a pas là du tout la même qualité. Elle ne ressemble absolument pas à une mitzvah faite avec nonchalance. Quelque part, si on voulait aller au-delà du temps, comme si on voulait comprendre, on comprenait bien la notion de la mitzvah. Regardez le mot mitzvah. Je vous fais un petit remède, une allusion qui se trouve dans le mot mitzvah. Mitzvah, on sait très bien qu'il y a les lettres yud-ke-vav-ke, c'est-à-dire le tétragramme, qui se trouve inscrit d'une façon allusive. Alors le Vav et le Hé, c'est les dernières lettres du mot mitzvah, et les premières lettres, même tzadik, par le principe de atvash. Atvash, ça veut dire lorsque vous mettez la première lettre qui est le alef et vous l'intervertez avec la dernière lettre qui est le tav. Donc le alef devient tav. Puis après, la deuxième lettre, la lettre bet, elle est intervertie, elle est remplacée par le shin, qui est l'avant-dernière lettre, etc. Vous verrez que le mem et le tzadik deviennent yud et he. Et le yud et le he, yud ke vav ke. Comme si Hachem disait, grâce à ta mitzvah, tu me m'installes dans le monde. Sauf que c'est caché, donc c'est pour ça que le mot mitzvah n'est pas évidemment, on ne voit pas obligatoirement la présence du monde d'Hachem. Il faut savoir le trouver à travers le mem tzadik. Matzah, d'ailleurs, qui veut trouver, il faut le chercher et le trouver. Mais la notion d'une mitzvah, c'est justement d'installer Hachem et de le faire comprendre que ça, qu'il est présent, puisque lorsque, par exemple, on met des tefillin et que des gens autour de nous s'interrogent, c'est quoi ces boîtes noires, on explique, mais non, c'est la volonté d'Hachem, c'est le nom d'Hachem, c'est les parchemins de la Torah. Ben, c'est installer Dieu dans ce monde et le faire résider ici. Le faire avec Zrizot, avec Zel, c'est l'installer un peu plus. Et même plus que ça, le Ramchal fait une allusion très importante au fait qu'il y a la Shekhina. Il réside dans une mitzvah faite avec zèle et elle ne réside pas dans une mitzvah qui est faite sans zèle, parce que si on le fait avec précipitation, mais précipitation dans le sens pas évidemment de pas clé, hein, il s'agit de faire avec concentration surtout et donc sans somnoler, sans ordre, en faisant les choses avec vraiment en mobilisant, c'est le mot important, mobilisant toutes ses forces dans la mitzvah, en se concentrant à fond dans une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? La mitzvah devient tout à fait autre chose. Elle prend une autre dimension et elle dépasse ce monde et on s'élève vers d'autres sphères. Et Hachem se rapproche de nous, puisque nous sommes rapprochés de lui. Et véritablement, se fait un bouleversement dans le monde et en nous-mêmes. Donc vraiment, c'est vrai que la période que nous vivons maintenant, c'est une période difficile, une période compliquée. On sait qu'on va se préparer à Pessah, il va y avoir faire beaucoup d'efforts. Essayons de les faire dans la joie et dans le zèle, dans la simcha, parce que pour arriver évidemment à faire les choses dans comme il faut, avec le zèle et avec les autres, nous avons parlé, il faut le faire avec évidemment la simcha, la joie, comprendre une forme dans un enjeu absolument incroyable, celui de faire résider Hachem sur cette terre, et c'est pas n'importe quoi. Et pour le faire, il faut le montrer à travers des actes qui sont faits avec joie. Prenons un exemple très simple, je voudrais bien le montrer pour que tout le monde ressente bien ce que je dis. Si par exemple, vous demandez à votre fils d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, d'accord ? Vous êtes sur le canapé et vous lui demandez de le faire. Et votre fils le fait en traînant la patte, en soupirant, il faut le répéter 4, 5, 6 fois, 10 fois, et il le fait en très... Bon, vraiment, vous le sentez que vous l'embêtez... Ben, comment vous ressentez? Lorsqu'il vous apporte le verre d'eau, vous dites « Bon, il m'a amené le verre d'eau, mais parce que vraiment, il n'a pas envie que je me fâche, il a peur de prendre des remontrances. » Mais en fait, il n'y a rien dans ce verre d'eau qui montre son amour, son attachement à son père. Il y a tout juste le contraire. Alors que s'il le fait en disant « Oui, papa, avec plaisir, et vite, il va le chercher, il vous le ramène en 2 minutes. » Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout autre chose. Il y a non seulement le verre d'eau, mais dans le verre d'eau, il y a l'amour d'un fils pour son père, et le respect du fils de son père, etc. C'est totalement différent. Donc, il faut bien comprendre qu'avec Hachem, c'est la même chose. Il nous demande de faire des choses. Si on le fait avec empressement, c'est une chose. Si on le fait sans empressement, c'est totalement autre chose. Et ça, il faut en être conscient, surtout en cette période où on nous demande, à cada jour, on nous demande de faire des actes qui nous demandent des efforts. Mais il le demande de le faire avec le sourire et avec l'empressement et avec la joie. Comme il a dit le soir à la sortie d'Égypte, Tripazon, soyez prêts, soyez avec les ceintures autour de vos reins, vous êtes habillés, prêts à partir, vous êtes dans une mobilisation totale. Et là, Kadosh Baruch Hu sent qu'on veut aller vers lui, donc il vient vers nous. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, que nous ayons effectivement cette présence d'Hachem dans nos actes au quotidien, et que le mot mitzvah révèle le yudke caché par le même tzadik, par la notion de atvash, et qu'on est vraiment le yudke vavke dans l'accomplissement de nos mitzvot.
Amen. C'était Rav Tobiano qui nous avait dit, c'est le mashgiach de la yeshiva de la rue Pavée, il avait dit, et attention, ne rajoutez pas du chametz. Ah bon, comment on va rajouter du chametz? Pas de dispute. Ne rajoutez pas du chametz dans la maison. Rav Gué, pardon.
Oui, c'est une forme de chametz. Ouais, ouais.
Rav Gué, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.